recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Pour nous, médecins, lorsqu'on parle d'un cadavre ou d'un mort, la terminologie est tellement technique que finalement, on n'est plus dans le problème de la mort de tous les jours. Si vous voulez, on est dans le problème d'un sujet qui a eu à un moment donné de sa vie quelque chose qui a arrêté le cours normal de sa vie.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, on ne peut pas être prime sautier tous les jours, ni même tous les samedis. Rien de joyeux ni de coruscant dans notre sujet de ce matin, mais rien de plus essentiel, puisqu'il va s'agir de considérer, sur plus de deux siècles, la situation des médecins devant la mort. La Rochefoucauld, dans une maxime célèbre, observait déjà « Ni le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement ». C'est pourtant ce que s'efforcent aujourd'hui de faire, parmi beaucoup d'autres, les militants de l'association pour mourir dans la dignité, l'APMD. Tout comme le professeur Jean-Louis Touraine, député de La République En Marche, qui vient d'entraîner 156 de ses collègues du Parlement, issus d'horizons différents, à appeler à mieux préciser et encadrer dans la loi les droits et la liberté de mourir des personnes en fin de vie. Tout comme le Conseil économique, social et environnemental, qui propose de légaliser, en France, comme c'est le cas déjà dans des pays voisins, euthanasie, et suicide assisté. Chacun mesure la dimension de cet enjeu en termes civiques, moraux, religieux et presque métaphysiques. Or, le corps médical est ici évidemment en première ligne. Même s'il peut y avoir quelque chose de paradoxal à parler d'une médicalisation de la mort, la médecine s'appropriant ce qui signe son inévitable échec, autrement dit justement les limites de son rôle. Il n'empêche qu'elle est forcément concernée au premier chef, autrement dit que son regard sur la fin de la vie, dont les circonstances peuvent dépendre de son pouvoir ou de son impuissance, est essentiel pour aborder cette question primordiale. L'œuvre d'Anne Carroll, professeur à l'université d'Aix-Marseille, le démontre de la façon la plus pertinente et la plus informée possible. Cette œuvre est originale et forte, je me devais donc de la convier devant vous.
Ils n'ont pas de cœur gai dans leur humble chambrette, les deux jeunes époux honnêtes ouvriers, car leur unique enfant, leur petite Jeannette, malade, à l'hôpital un jour dut s'en aller. C'est aujourd'hui dimanche et c'est jour de visite, et le pauvre mari s'habille prestement, sa femme lui dit « pars et surtout reviens vite, me dire comment va notre petit enfant, moi t'accompagner je ne puis ». J'ai tant de travail, dis-le-lui, pour finir la robe blanche qu'elle mettra le dimanche. Aujourd'hui je veux rester et je m'en vais bien travailler. Je l'ornerai de dentelles, de jolis rubans soyeux, et notre fille sera belle comme un ange des cieux. Le pauvre homme s'en va, marchant d'un pas rapide. Il arrive bientôt, il entre à l'hôpital. Sur le petit lit blanc et la mine livide, il aperçoit sa fille et la trouve plus mal. Il va voir le docteur, le presse, le questionne. Comprenez-moi, monsieur, j'ai besoin de savoir. Ah, je peux tout entendre aller, je me raisonne. Ayez donc du courage, il n'y a plus d'espoir. Et le père étouffant ses pleurs à l'enfant cache sa douleur et sur sa couchette blanche, vivant son dernier dimanche. En tendant ses petits bras, l'enfant murmure à son papa: je veux ma robe en dentelle avec de beaux rubans bleus. Tu l'auras et tu seras belle comme un ange des cieux. Brisé par la douleur, il sort comme un homme ivre, et s'appuyant au mur, il marche en titubant, car sa femme, il le craint, ne pourra pas survivre à la cruelle fin de sa petite enfant. Mais il trouve la force en lui pourtant de dire, effaçant de son front le nuage soucieux, à sa femme, en rentrant presque dans un sourire: allons, console-toi, notre fille va mieux. Et tandis que l'enfant se meurt, la maman dit la joie au cœur: garde la robe blanche qu'elle mettra le dimanche. Pour la parer plus gaiement, que faut-il, dentelle ou ruban? Je crois qu'un peu de dentelle, répond-il, fera bien mieux, car il pense elle sera plus belle pour monter.
Anne-Carole, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'écouter ensemble une chanson de Danny Dersch pour la musique, Émile Gibert pour les paroles, ici interprétée par l'inoubliable Jean Lumière en 1933. Je n'ai peut-être pas besoin de vous dire pourquoi je l'ai élu pour commencer notre conversation. On y trouve beaucoup des thèmes que nous allons avoir à évoquer, nous allons avoir à nous saisir. Faut-il dire la vérité? Meurt-on à l'hôpital ou chez soi? Parle-t-on à la famille? Est-ce que vous reconnaissez là des interrogations qui sont les vôtres?
Oui, tout à fait. On retrouve cette question aussi de la mort qui se raréfie et la mort de l'enfant qui devient insupportable. Cette question de la médicalisation de la mort, on est dans les années 30. On est dans une situation qui est relativement exceptionnelle, puisque jusqu'aux années 1960, il n'y a qu'un peu moins d'un tiers des décès qui se produisent dans des lieux médicalisés.
Alors qu'aujourd'hui?
Aujourd'hui, ce sont les 4/5e. Le cinquième restant, ceux qui se produisent à domicile, il faut tenir compte de ceux qui, en fait, se produisent parce qu'on a ramené le mourant in extremis. Voilà. Et donc, toute son agonie, toute sa fin de vie s'est déroulée à l'hôpital. Donc là, on est à un moment où ça reste relativement exceptionnel parce que l'hôpital est fréquenté essentiellement par les pauvres. Là, c'est le cas, c'est une famille d'ouvriers.
Le père quitte d'ailleurs l'hôpital et va être absent quand l'enfant va mourir. Ce qui ajoute au violon du chagrin qui tire les larmes.
Absolument, absolument, puisque la mort solitaire à l'hôpital est devenue le modèle de la mauvaise mort au XIXe siècle. Bon, je pense que c'est un peu irréaliste, mais pour les besoins de la chanson, il fallait qu'il revienne voir la mère.
D'emblée, la question se pose de la nécessité de dire la vérité aux patients. Faut-il le faire? C'est une très ancienne question.
C'est une très ancienne question qui, en fait, a été résolue de façon différente selon les époques. Au XIXe siècle, s'est imposé dans le milieu médical quelque chose qui n'avait pas cours auparavant, qui était qu'il fallait cacher la vérité aux malades.
Au début du XIXe siècle encore, le médecin Campardon, dans son livre « Du courage dans les maladies », disait « Si l'homme de l'art ne peut plus guérir un malheureux qui se confie à ses soins, il doit au moins l'entretenir dans les 12 illusions dont il a le bonheur de se nourrir jusqu'au dernier moment. »
C'est nouveau, effectivement, cette doctrine qui consiste à dire qu'il faut mentir. C'est nouveau par rapport à l'Ancien Régime, où la préoccupation principale, c'était que le mourant puisse assurer son salut. Donc pour qu'il puisse assurer son salut, il fallait qu'il puisse voir un prêtre, recevoir les sacrements, etc. Donc il fallait l'avertir.
En 1712, encore, une déclaration royale défend au médecin de faire plus de 3 visites à un malade gravement atteint si on ne lui présente pas de certificat du confesseur.
Tout à fait. Au XIXe siècle, ça change parce que le médecin conquiert, je pense, ce moment de la mort. Mais ça se fait lentement. Il y a des réticences, et quand on regarde les manuels de déontologie médicale qui s'accumulent au cours du XIXe siècle, on voit cette injonction qui revient, ce qui prouve à la fois que c'est quelque chose qui est en train de passer dans les devoirs médicaux, mais en même temps qu'il y a du mal à passer, puisqu'il faut la rappeler sans cesse. Restez, restez après le pronostic fatal et accompagnez le mourant jusqu'au bout.
Je vais vous proposer, beaucoup plus tardif, un propos d'un médecin qui a été un prestigieux chef de service à l'hôpital Broussais, le professeur Paul Miliez, qui s'exprime dans l'Interactualité sur France Inter le 6 juin 1977 sur cette question précisément. Et on va retrouver, vous allez voir, la question des relations avec l'Église, puisqu'il va évoquer le cas d'un prélat.
Autrefois, il était exceptionnel que je dise à un malade qu'il allait mourir. Et c'était exceptionnel parce que les malades n'y tenaient pas. Et que quand, par malheur, j'ai dit à quelques êtres que je croyais d'élite qu'ils allaient mourir, ça a été une catastrophe. Je me souviens en particulier d'un grand prélat qui s'était confié à moi et que je soignais et dont les autorités religieuses les plus élevées m'avaient prié de prendre soin et auquel on m'avait demandé de dire la vérité sur son état car il avait de très lourdes charges ministérielles. Et il fallait qu'il sache qu'il allait mourir de façon à régler ses problèmes, comme ce peut être le cas également d'un père de famille ou d'un homme politique important. Alors, je suis allé un matin près de lui pour lui annoncer, c'était à l'hôpital, que je pensais que sa maladie est très très grave et qu'il était très vraisemblable qu'elle allait mal se terminer. Il s'est effondré. Il s'est effondré. Et il a très mal pris l'annonce de cette mort probable. Et à tel point même que le lendemain matin, il a fallu que je revienne auprès de lui en lui disant « J'ai revu vos lames, car c'était une maladie sanguine. Nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Vous n'allez pas mourir. C'est une maladie qui n'est pas grave. » Et il est mort 8 jours après. Mais tranquille. Car ça, c'est un des phénomènes que nous connaissons bien maintenant. Nos malades, dans la majorité des cas, ne supportent pas l'idée de la mort. Puis alors, on a de temps en temps la chance de rencontrer des êtres d'exception. Oh, ils sont de tous niveaux sociaux. Hein. Ne croyez pas que ce soit uniquement des intellectuels, que ce soit uniquement des religieux, que ce soit uniquement des philosophes. Non. On voit des garçons de 20 ans, ouvriers métallurgistes, qui meurent magnifiquement. D'ailleurs, les jeunes meurent mieux que les vieux. Toujours. Plus on est vieux, plus on est moche, plus on désire vivre. Alors j'ai eu la chance de rencontrer des gens auxquels on pouvait dire la vérité et qui la voulaient. Qui voulait la connaître. J'ai soigné comme ça de grands médecins dont beaucoup ne voulaient pas connaître la vérité, auxquels je ne l'ai pas dit, auxquels j'ai menti car ils le souhaitaient, alors qu'ils n'auraient jamais accepté les mensonges que je leur distribuais si c'était agi d'un malade que nous avions soigné en commun. Quand il s'agissait d'eux, ils l'acceptaient. Ils acceptaient tout. Et puis par contre, j'en ai rencontré d'autres qui m'ont dit « Aide-moi à vivre encore 6 semaines ». Que je règle mes problèmes. Je me souviens encore d'un très grand ophtalmologiste, jeune, très remarquable, très connu, qui m'a dit « Il me faut 6 semaines pour régler la situation de mes 6 gosses ». Et il a eu ces 6 semaines, et il y est arrivé.
Alors en somme, si on est moche et vieux, on a plus de peine, Anne-Carole, à mourir. Il vaut mieux qu'on ne vous dise pas la vérité. Vous vous relevez dans vos travaux des textes qui durent plus d'un siècle, au début 19e jusqu'au début du 20e, sur la nécessité de dispenser les consolantes illusions de l'espérance, de rendre plus douce la pente, de masquer sous des fleurs, d'être des éternels berceurs.
Oui, ça dure jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, le code de déontologie qui est produit par le Conseil de l'Ordre recommande d'user avec beaucoup de parcimonie de la vérité et d'épargner au maximum les malades.
Quels sont les arguments pour cela ?
Ah, les arguments restent à peu près les mêmes tout au long de la période. Il y a d'abord des arguments qui sont de l'ordre de la charité. Il ne faut pas décourager le malade. Il y a d'ailleurs là, il me semble, une tentative de la part des médecins de définir une charité qui ne soit pas la charité chrétienne, qui dit au contraire qu'il faut dire la vérité, mais de créer une morale autonome, propre à la médecine, qui serait d'épargner le choc de la douleur, hein, comme le raconte le professeur Miliez d'ailleurs, qui peut être violent. Il y a des raisons aussi d'ordre scientifique et médical. Court l'idée que la révélation du pronostic fatal peut entraîner un affaissement des forces vitales. Je parle comme les médecins du 19e siècle.
Donc en fait, accélérer la mort.
Absolument.
Par le fait qu'on l'annonce.
Exactement. Mettre fin aux forces que le patient peut éventuellement déployer pour lutter.
La charité rejoint ici la bonne médecine.
Tout à fait. Et puis, je pense qu'il y a aussi, ça les médecins le disent moins, peut-être la volonté de s'abriter dans une situation plus confortable que celle qui consisterait à se retrouver dans un face-à-face qui peut durer avec un patient qui sait qu'il va mourir, alors qu'on est soi-même impuissant à empêcher cette mort.
Le médecin se protège contre sa propre angoisse ?
Peut-être, contre sa propre angoisse, contre aussi des demandes d'intervention. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pour soulager la douleur qui le mettrait mal à l'aise. Mais il est sûr que s'il donne un pronostic fatal, on attend de lui qu'il agisse quand même, s'il doit rester, puisqu'on a vu qu'il restait maintenant au chevet du mourant. Et ça le met dans une situation qui est très, très inconfortable.
On voit même l'argument qu'un malade à qui on annonce sa mort pourrait être tenté de mettre fin à ses jours.
Oui, c'est un argument qui revient effectivement assez souvent et qui se fait le prolongement de la doctrine médicale qui consiste à prolonger la vie le plus longtemps possible.
Il y a le thème de la nécessité de prévenir la famille plutôt que le malade. Je vois que le docteur Legendre, dans un livre qui s'appelait « Déontologie et technique professionnelle » paru en 1920, vous avez déniché un nombre de manuels et de livres prescriptifs sur ces questions qui laissent en vérité pantois. Je vois Monsieur Legendre qui dit « Quand votre client est réellement en danger, à son insu et à celui de sa famille, vous devez ouvrir les yeux » à cette famille, avec tous les ménagements convenables, en choisissant pour confidente la personne la mieux pondérée.
C'est une sorte de subterfuge, effectivement, que trouvent les médecins pour ne pas avoir à faire cet aveu en face à face, que de le faire à la famille avec des arguments, là aussi, qui sont réels, hein, c'est-à-dire mettre en ordre ses affaires, hein, temporelles et spirituelles, permettre au mourant de le faire. Mais en même temps, voilà, on se décharge sur la famille du soin de dire au mourant que les choses ne se passeront pas comme il l'espérait.
Et pourtant, dès le 19e siècle, on trouve un certain nombre de médecins minoritaires qui plaident déjà pour la transparence. Pourquoi, dit l'un d'entre eux, pourquoi tromper d'un vain espoir celui qu'on ne peut pas sauver ? Si le mot n'était pas trop fort, je dirais même, pourquoi escroquer le malade pour le conduire au tombeau ?
Alors on retrouve là des arguments qui sont très modernes, hein, qu'on évoque aujourd'hui sur la question du vol de la mort par la médecine et de l'appropriation par le mourant de sa propre mort qui est empêchée par la médecine. Mais la plupart des adversaires du mensonge, en fait, se retrouvent dans le camp des médecins catholiques qui continuent à défendre cette idée que la vérité est la seule façon de permettre au mourant de prendre le temps de régler le sort de son âme et de préparer son salut. Or, le prévenir trop tard risque de provoquer une situation où le mourant, lorsqu'il recevra le prêtre, sera inconscient, ne pourra pas recevoir éventuellement l'Eucharistie, etc. Et donc, ça compromettra son salut. Donc, les médecins catholiques, tout au long du XIXe siècle, continueront à défendre cette idée de la vérité. Mais des médecins catholiques militants. Parce que, évidemment, la plupart des médecins qui officient par ailleurs dans la société française sont catholiques, mais ils ont plutôt basculé du côté de cette morale, de ces règles de morale propres à leur profession qui valorisent le mensonge.
On retrouve aussi un autre argument plus surprenant peut-être au premier regard, c'est l'idée que si on n'annonce pas la mort, alors on ne démontrera pas sa lucidité, donc l'on peut nuire à sa réputation de médecin. Quelque pénible que soit cette mission, le médecin doit, fût-ce au dernier moment, donner une preuve de ses connaissances et de sa capacité en avertissant d'une fin prochaine. C'est le docteur Lazègue qui dit cela en 1880.
Oui, surtout dans des situations où la médecine est impuissante, j'allais dire le pronostic est le seul domaine où la science médicale peut encore briller. Donc effectivement, faire un pronostic juste permettra de restituer à la médecine son honneur.
Le médecin doit-il être présent au moment de la mort, selon tous ses manuels, selon toutes ses prescriptions ?
C'est une obligation, encore une fois, qui est répétée tout au long du XIXe siècle et qui se module évidemment selon les catégories sociales. C'est-à-dire que pour être présent au moment du décès, il faut aussi avoir été présent tout au long de la maladie et jusqu'à son évolution fatale. Donc évidemment, dans les catégories les plus pauvres, à la campagne, la présence du médecin au chevet du mourant, elle est plus rare, plus épisodique. Dans la bonne bourgeoisie, ça devient la règle. On accompagne la maladie et si la maladie tourne mal, on accompagne jusqu'à la mort.
Alors de tout cela, que reste-t-il aujourd'hui? Diriez-vous qu'il y a une permanence ou au contraire des évolutions qui conduisent à une différence marquée dans les comportements des médecins en face de leurs malades?
La médicalisation de la mort, les formes de médicalisation de la mort ont changé puisque si la mort se produit à l'hôpital, elle ne se produit plus en présence du médecin de famille. C'était comme ça que les questions se posaient au XIXe siècle. Si elle se produit à l'hôpital, l'injonction d'accompagner le mourant, elle se dilue, si je puis dire, dans l'atmosphère générale de l'hôpital qui est médicalisée. Donc il y a des soignants autour du mourant, il n'y a pas forcément un médecin qui l'accompagne jusqu'au bout.
Une autre question est largement débattue dès ce 19e siècle et est toujours présente, c'est la question du rôle de la douleur. Est-ce que la douleur doit être une alliée indispensable, la compagne obligée de la médecine, comme l'a dit quelqu'un à la fin du 18e siècle, discours sur la douleur de Petit, elle aura une valeur monitoire. Si elle est subie, elle annonce ce qui doit se passer et elle fait partie presque de l'arsenal thérapeutique. Ce fruit amer, je cite, ce fruit amer de la nature cache le germe d'un grand bienfait. C'est le tonnerre qui gronde avant que de frapper.
Alors la douleur, on parle de la douleur en général. Hein. Donc oui, c'est effectivement une alliée de la médecine, à la fois du point de vue du diagnostic, comme la citation que vous venez de faire le montre. Hein. Quand on a mal quelque part, c'est que... Voilà, il se passe quelque chose, il faut être attentif à cette douleur et il ne faudrait surtout pas l'occulter parce qu'on se priverait d'un moyen de diagnostic. On l'utilise aussi en thérapeutique. Il y a tout un tas de moyens thérapeutiques qui sont utilisés, qui sont des moyens douloureux. Des moxas, des cautères qui sont appliqués sur le corps, qui ont pour but soit de détourner la douleur d'un siège où elle est particulièrement forte vers une autre partie du corps, de l'éteindre, en quelque sorte, en créant une douleur plus brève et plus intense, ou alors qui ont pour but de stimuler les forces vitales. Et dans ce cas-là, on retrouve cette question des mourants, c'est-à-dire il n'est peut-être pas inutile de stimuler les forces vitales du mourant, justement en lui appliquant des traitements qui peuvent être un petit peu douloureux, qui peuvent avoir une fonction de choc sur lui.
Il y a une sorte de moralisation, en somme, de la douleur, qui est inhérente à la vie, qui doit être accepté comme tel et presque salué.
Alors, il y a effectivement une moralisation, on peut dire laïque en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que la douleur forge le caractère, le fait de la supporter, c'est le signe du passage à l'âge adulte, c'est le signe de la virilité, etc. Donc finalement, la douleur est valorisée comme une des façons de se construire. Mais il y a aussi tout un arrière-fond chrétien, hein, la douleur. Et rédemptrice. Souffrir sur terre, souffrir lorsqu'on est malade, souffrir lorsqu'on est mourant, c'est s'épargner d'autant les peines du purgatoire. Donc il y a un peu un mélange entre ce registre laïque, qui peut même être scientifique, le fait de valoriser la douleur, par exemple, du point de vue des évolutionnistes au XIXe siècle, est tout à fait révélateur. C'est-à-dire que seuls les êtres qui sont très sensibles ont pu évoluer. Les brutes épaisses dans la nature, les êtres les plus simples, les moins développés du point de vue du système nerveux, les moins sensibles à la douleur, sont restés voilà, des êtres d'une simplicité biologique et organique désespérante. Pour évoluer, les êtres ont besoin d'avoir un système nerveux développé, ils ont besoin de ressentir la souffrance, et cette souffrance, qui leur est apportée éventuellement par les stimuli de l'environnement, leur permettra de progresser.
Cette idée de scientifique ou parascientifique rejoint d'ailleurs, vous le disiez, la position d'un certain nombre de religieux. On voit un changement sensible en face de la douleur à partir des années 30 et en même temps de la résistance. Ce changement sensible, c'est par exemple celui que manifeste le professeur René Leriche, un grand homme de ces questions, qui a publié Une chirurgie de la douleur en 1937 comme chirurgien et qui se heurte encore en 1947, cette citation m'a frappé, au propos d'un professeur visiblement catholique qui dit chez Chauchard, la douleur, 1947, qui dit « Il faut apprendre à supporter la douleur car se révolter ne sert à rien et toujours chercher à l'éviter est indigne. Heureux serons-nous si nous pouvons aller plus loin et passer de la résignation et de l'acceptation au stade suivant ou pensant que tout a un sens dans le monde, nous pourrons aimer la souffrance en lui reconnaissant un rôle rédempteur pour nous et pour les autres. Bigre.
Vaste programme, mais René Le Riche, en réponse à ce genre de propos, disait « La seule douleur qui est facile à supporter, c'est la douleur des autres ». Et je trouve qu'il avait bien résumé les choses. René Le Riche a travaillé sur les blessés de la Première Guerre mondiale, et en particulier sur les amputés, qui ressentaient des douleurs des membres fantômes. À quoi peut servir la douleur d'un membre fantôme ? Enfin, quand on dit que la douleur a une valeur monitoire sur une partie du corps qui est malade, si cette partie du corps a disparu, ça ne sert à rien. Et René Le Riche a eu aussi un rôle très important sur ces questions de la douleur, en développant l'idée que l'appréhension qu'on pouvait avoir de la douleur était forcément subjective, qu'il était impossible d'objectiver la douleur, comme des générations de médecins ont essayé de le faire. Ils ont essayé de mesurer avec des appareils plus ou moins compliqués l'intensité de la douleur, avec l'idée que eux seuls pourraient définir le degré de douleur ressenti par le patient. Ce que René Le Riche dit, c'est que toutes les douleurs sont subjectives, que ça fait partie de la douleur et qu'il faut en tenir compte. Alors, il change effectivement le point de vue sur la douleur, mais pour que tout cela prenne un effet sur les pratiques, c'est très long. Hein. On sait très bien que les centres antidouleurs en France, ce sont les années 70, les centres de soins palliatifs également, ça se développe à partir des années 80, donc c'est effectivement un très long chemin qu'il faut accomplir parce que à la valorisation de la douleur par l'Église, au discours doloriste de l'Église, s'est ajouté ce discours médical qui lui aussi a valorisé la douleur et qu'il a fallu progressivement combattre.
Et tout cela conduit très directement à la question de l'agonie des morts, puisque nous parlons ce matin, Anne-Carole, des médecins devant la mort. Faut-il abréger l'agonie ? C'est un débat que nous rejoignons aujourd'hui intensément, à la fois au Parlement, dans l'opinion, parmi les autorités spirituelles. Je vous propose cet extrait des Thibauts de Roger Martin Dugard. Nous avons récemment fait une émission sur Martin Dugard que vous pourrez trouver sur notre site. C'est un extrait du tome 4, 1928, où on entend un dialogue entre, d'un côté, Isaac Studler, ici interprété par François Vibert, qui est un jeune médecin, et un autre médecin, Antoine Thibault, interprété par Jean Chevrier. C'est Antoine Thibault, ici, ça peut surprendre d'ailleurs les lecteurs de Roger Martin Dugard, qui montre qu'il est moins libre d'esprit qu'on ne le pensait et qui s'oppose à l'idée d'abréger la vie d'un mourant.
Et qu'est-ce que vous allez faire ?
Moi ? Parbleu, je sais bien. Mais cependant, quand il dit faire quelque chose, on ne peut tout de même pas avoir l'air de comprendre. On ne le peut pas.
Mais vous êtes pourtant de l'avis qu'il n'y a plus rien à tenter. Vous l'avez fait comprendre ce matin. Alors ?
Il n'y a rien à tenter, en effet.
Il n'y a plus aucun espoir ?
Pas le moindre.
Alors ?
Non.
Alors il n'y a pas d'hésitation ?
Non.
Il faut que cela finisse, ou plutôt.
Oui, je le souhaite.
Mais souhaiter ne suffit pas.
Mais on ne peut pourtant rien de plus.
Si.
Non.
Mais ces piqûres, je ne sais pas, moi. Peut-être qu'en forçant la dose...
Ah, taisez-vous ! Oui, taisez-vous. Je comprends. Ce désir d'en finir, nous le connaissons tous. Mais ce n'est qu'une tentation de débutant. Avant tout, il y a une chose, le respect de la vie. Parfaitement le respect de la vie. Si vous étiez médecin, vous verriez les choses exactement comme nous les voyons tous. La nécessité de certaines lois, une limite à notre pouvoir, sans quoi...
La seule limite quand on se sent un homme, c'est la conscience. Et ici...
Eh bien justement, la conscience professionnelle. Non mais réfléchissez une seconde. Le jour où les médecins s'attribueraient le droit, d'ailleurs aucun médecin, entendez-vous Stellero, aucun médecin,
bien.
Et qu'elle s'est trouvé sans frais devant des cas aussi douloureux, aussi désespérés que celui-ci, mais pas une fois il n'a lui-même volontairement mis un terme. Jamais. Aucun médecin digne de ce nom, vous entendez, Stellero, jamais.
Eh bien, vous êtes peut-être de grands pontifs, hein, mais pour moi, vous n'êtes que des gens foutres.
Mais venez, nous allons faire la piqûre.
Vous...
Non, la piqûre habituelle, rien de plus. Je n'ai pas le droit. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit ce que j'en pensais. N'y en venons pas.
Nous verrons si vous n'avez pas eu tort.
Je vous rappelle, Anne-Carole, qu'il s'agit du tome 4 des Thibauts de Roger Martin Dugard. On a entendu Isaac Studler, qui est un jeune médecin, interprété par François Vibert, et Antoine Thibault, interprété par Jean Chevrier. C'est Antoine Thibault qui considère qu'on n'a pas le droit d'abréger une agonie.
C'est une position de principe, cette position qui consiste à dire qu'il faut prolonger jusqu'au bout la vie. Il faut bien prendre conscience qu'on est dans une médecine qui reste encore assez largement impuissante face à de nombreuses pathologies. Et faute de guérir, finalement, une des seules façons d'agir, c'est de prolonger à tout prix la vie. Alors, abréger, évidemment, c'est quelque chose de criminel, qui peut être, j'emploie le mot à dessein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut faire l'objet de poursuites chez le médecin. Donc il y a aussi une question de la responsabilité médicale et du risque professionnel qui se pose. Si bien que ces questions de l'euthanasie, finalement, pour cette période, disons, de la fin du 19e et de la première moitié du 20e siècle, cette question de l'euthanasie reste une question de pratique au cas par cas et quelque chose de très feutré, de très difficile à appréhender pour l'historien. Ce qui est en revanche très facile à appréhender, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la position de principe qui est de refuser absolument d'abréger la vie.
Ce qu'on appellerait aujourd'hui acharnement thérapeutique.
Oui, alors ce qu'on appelle depuis les années 60 l'acharnement thérapeutique, mais qu'on appelait déjà au début du 19e siècle la dysthanasie, le contraire de l'euthanasie, donc la mauvaise mort, qui serait liée à l'activisme des médecins qui par ailleurs savent très bien qu'ils ne pourront plus sauver leurs malades, mais qui continuent à pratiquer sur eux des cautérisations, des bains, poser des sangsues, etc. On a des récits comme ça de cas de malades en phase terminale.
Qui ajoutent de la douleur à la douleur.
Qui ajoutent de la douleur à la douleur.
C'est ce que dénonce violemment Maurice Maeterlinck, vous savez, le prix Nobel de littérature, dans un livre qui s'appelle « La mort », qui a été publié en 1913, où il nous apparaît très précurseur de nos sensibilités contemporaines, puisqu'il écrit « Tous les médecins estiment que le premier de leurs devoirs est de mener aussi loin que possible les convulsions les plus atroces de l'agonie la plus désespérée. Les médecins agissent comme s'ils étaient convaincus qu'il n'est point de torture connue qui ne soit préférable à celle qui nous attend dans l'inconnu. Il semble persuadé que toute minute gagnée parmi les souffrances intolérables est dérobée à des souffrances incomparablement plus redoutables. » C'est là que la morale laïque, la loi, rejoint la permanence de préoccupations chrétiennes.
Oui, et quand il parle de convulsion, ce n'est pas une image. Hein. C'est-à-dire que les moyens de ranimer, de prolonger, ce sont des injections de caféine, des injections d'éther, qui ont pour but effectivement de ranimer cardiaquement les mourants, hein, et de provoquer chez eux, voire l'utilisation d'électricité aussi parfois, donc de provoquer ces fameuses convulsions. Tant qu'il y a des convulsions, j'allais dire, il y a de la vie. Donc on est légitime à le faire quand on est médecin.
Un des aspects du débat sur l'effort pour soulager la souffrance, c'est la question de l'utilisation de l'opium et de la morphine. Chose intéressante parce qu'on voit surgir la crainte de la banalisation éventuellement des effets pervers.
Alors la morphine a créé une espèce de parenthèse dans les pratiques médicales. Elle est isolée assez rapidement au début du 19e siècle, on ne sait pas trop l'utiliser. Il faut attendre la mise au point des seringues hypodermiques pour qu'elle soit utilisée de façon relativement massive et efficace, et indolore et sans trop d'effets secondaires. Et c'est une arme extraordinaire.
Les seringues, de quand datent-elles ?
Des années 1860. Ce sont des seringues avec une pointe fine mais creuse, donc différente des anciennes seringues, des clistères qu'on utilisait auparavant. Et donc c'est une arme extraordinaire pour les médecins parce que ça soulage la douleur. Ça soulage la douleur et donc les médecins qui étaient en situation de rester au chevet des mourants mais impuissants finalement, tout d'un coup ils ont quelque chose qui justifie leur présence et qui fait d'eux des bienfaiteurs. Auprès des familles, auprès des mourants, etc., avec la bienfaisante morphine. Il y a des travaux en cours actuellement sur l'utilisation médicale de la morphine. Je pense à une jeune doctorante qui s'appelle Zoé Dubus, qui montre qu'elle a été utilisée mais massivement par les médecins, qui ont même créé des morphinomanes par centaines, voire par milliers, parce que, encore une fois, c'était un médicament miracle. Le problème de la morphine, c'est l'accoutumance. C'est l'accoutumance, et cette accoutumance, elle inverse en quelque sorte le rapport de force entre le médecin et son patient. C'est-à-dire que de bienfaiteur, le médecin risque de devenir débiteur. On va lui demander toujours plus pour se soulager. Et donc, au lieu de dispenser ses bienfaits, il est sollicité sans cesse, de plus en plus, de façon de plus en plus pressante, par le mourant. Il devient prestataire de service, finalement.
Et ça n'a d'inconvénient que si le mourant survit ?
Alors, c'est un inconvénient que si le mourant survit, effectivement, donc c'est assez peu logique. Mais il y a aussi un deuxième inconvénient à la morphine, c'est que c'est, comme l'opium, quelque chose qui peut intoxiquer le malade, enfin qui intoxique le malade et qui abrège aussi son agonie.
Et c'est là qu'on est renvoyé à la question précédente.
On retrouve effectivement la question de l'euthanasie. Et il y a là toute une zone trouble dans l'administration de la morphine, dosage des piqûres de morphine, qui fait que on peut passer du soulagement légitime à l'euthanasie, c'est-à-dire à la mort procurée par une surdose de la morphine.
Donc le débat perdure pendant plusieurs décennies.
Alors en fait, ça va conduire à une espèce de repli, de restriction, de crispation médicale sur cet usage de la morphine dès le début du XXe siècle. Après cette période de prescription très libérale, y compris auprès des mourants. Au début du XXe siècle, on commence à observer un repli dans l'administration de morphine. Un repli au moins dans les injonctions, dans les prescriptions, dans les discours. Parce qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, ce qui se passe ensuite entre les médecins et les malades, on a très peu de sources pour l'appréhender. Et on peut penser que dans la pratique ordinaire, dans la pratique libérale du médecin de famille, on a pu continuer à donner assez libéralement de la morphine. À l'hôpital, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile et que les réticences sont très très fortes. Et on en arrive finalement à la situation actuelle, c'est-à-dire que dans les années 60-70, monte une contestation sur la non-prise en compte par la médecine de la douleur, et notamment de la douleur des mourants, et tout un combat en faveur des soins palliatifs, hein, dont on sait qu'ils ont été menés au départ par Celici Sanders, et puis qui ensuite vont aboutir à la création de ces unités de soins palliatifs dans les années 80 en France, mais avec un retard qu'on a peine encore à rattraper aujourd'hui.
Quand Bernard Kouchner était ministre de la Santé, il a beaucoup insisté sur cet aspect des choses.
Oui, il a effectivement rendu obligatoire l'adjonction de centres antidouleurs dans les hôpitaux, mais je ne me souviens plus exactement la date. Quelques années après, il a fallu réitérer et préciser cette injonction parce que les structures ne suivaient pas.
Alors, Anne-Carole, quand on s'intéresse, comme c'est notre cas ce matin, aux relations entre les médecins et la mort de leurs patients, il y a un autre aspect des choses. On attend des médecins qu'ils disent quand on est mort, où se situe la mort. Et on voit le moment instantané de la mort, qui était très souvent défini comme tel, se muer en une sorte de processus, et avec au centre la peur des inhumations prématurées, qui est une grande peur qui traverse tout le 19e siècle. Par exemple, chez Émile Zola, les Goncourt de leur journal nous disent qu'il était obsédé par la question d'une mort prématurée, si je puis dire, l'angoisse d'être enterré vivant. Il dit au Goncourt qu'il en rêvait souvent la nuit. Cela se ressent dans cet extrait de la mort d'Olivier Bécaille. C'est une nouvelle de 1884 qui est lue ici par Jean Aucotrel. C'est un extrait des Chemins de la connaissance de Jacques Munier sur France Culture, le 24 mai 2007.
Ce fut la violence de cette clameur qui m'éveilla. Où étais-je ? Encore dans le tunnel, sans doute. Je me trouvais couché tout de mon long, et je sentais à droite et à gauche de dures parois qui me serraient les flancs. Je voulus me lever, mais je me cognais violemment le crâne. Le roc m'enveloppait donc de toutes parts, et la tache bleue avait disparu. Le ciel n'était plus là, même lointain. J'étouffais toujours, je claquais des dents, pris d'un frisson. Brusquement, je me souvins. Une horreur souleva mes cheveux, je sentis l'affreuse vérité couler en moi, des pieds à la tête, comme une glace. Étais-je sorti enfin de cette syncope qui m'avait frappé pendant de longues heures d'une rigidité de cadavre ? Oui, je remuais. Je promenais les mains le long des planches du cercueil. Une dernière épreuve me restait à faire. J'ouvris la bouche, je parlais, appelant Marguerite instinctivement. Mais j'avais hurlé, et ma voix dans cette boîte de sapin avait pris un son rauque si effrayant que je m'épouvantais moi-même. Mon Dieu, c'était donc vrai. Je pouvais marcher, crier que je vivais, et ma voix ne serait pas entendue, et j'étais enfermé, écrasé sous la terre.
Alors, Anne-Carole, est-ce que Zola ici, est-ce que son personnage parle pour beaucoup du point de vue de l'angoisse et peut-être du point de vue de la réalité? Est-ce qu'on peut savoir si des vivants ont été enterrés?
Alors, on en a effectivement des traces. Ensuite, cette question de la peur des inhumations prématurées, c'est assez compliqué parce qu'elle est effectivement très portée par les médecins qui, à cette époque, tentent d'imposer des systèmes de vérification médicale des décès dans toutes les villes. C'est une question de santé publique, d'hygiène publique, un combat dans lequel les médecins sont très investis. Donc ils ont tendance à gonfler, si je puis dire, le problème. Ça s'est sans doute diffusé, cette peur, dans des milieux éclairés, des élites. Est-ce que ça a véritablement traversé l'ensemble de la société? C'est plus difficile de le dire. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que cette question d'inhumation prématurée dont les médecins vont s'emparer pour parler de la mort et pour proposer une expertise en matière de mort avérée, montre bien quelles ont été leurs priorités. C'est-à-dire que les médecins se sont définis comme des experts de la vraie mort, plus que comme des experts de la bonne mort dont on parlait auparavant. Ça, ils l'ont un peu laissé de côté.
Alors, quels sont les signes de la mort? On est passé du poumon au cœur.
Alors, on est passé d'un régime déjà où les médecins n'étaient absolument pas convoqués, on va dire, pour certifier la mort, où la mort relevait d'un régime de l'évidence. Et cette évidence, c'était celle du dernier souffle, effectivement, donc du poumon. On rendait le dernier soupir, on expirait.
On mettait le petit miroir devant la bouche du malade.
En cas de doute, le miroir, la plume devant les narines, enfin des signes comme ça très très simples.
La plume devant les narines, c'était quoi?
Ah ben, si le duvet était agité, c'est qu'il y avait un léger souffle, hein, peut-être non perceptible, qui existait quand même. Donc voilà, quelque chose qui était très simple, qui relevait de l'absence ou non de respiration. On est allé vers quelque chose de plus en plus compliqué pour certifier la mort. Et au milieu du 19e siècle, effectivement, le nouveau signe de la mort qui l'emporte, c'est l'auscultation cardiaque. Donc tout ce qui relève de la circulation, les battements du cœur, le pouls, tout cela devient le meilleur signe pour certifier la mort, avant que, au 20e siècle, ce ne soit le cerveau qu'on interroge pour savoir si on est réellement mort ou pas.
Ce qui pousse d'ailleurs un certain nombre d'auteurs à s'interroger sur la permanence éventuelle de quelque chose comme la vie dans la tête des guillotinés. Il y a une nouvelle effrayante de Villiers de l'Isle-Adam qui était obsédé par ces choses et qui imagine un médecin. La nouvelle s'appelle « Le secret de l'échafaud » et remonte à 1883, où il décrit un personnage, un professeur de médecine, qui vient faire accord avec un condamné à mort particulièrement lucide, avancé, curieux des choses de la science, pour décider avec lui qu'il prendra sa tête juste après que sera tombée la guillotine, celle que vous appelez après d'autres la veuve. Vous avez consacré d'ailleurs, Anne-Carole, un livre entier à la guillotine. Donc la guillotine tombe, le professeur prend la tête et demande au guillotiné de cligner de l'œil s'il éprouve encore quelque chose comme de la vie, non?
Alors effectivement, il lui demande de cligner de l'œil trois fois. Et le sujet de l'expérience, le guillotiné, cligne une fois et demie de l'œil, si je puis dire, et donc laisse le lecteur dans le doute. La nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam, elle date de 1883, je crois, ou 84.
83.
C'est-à-dire à peu près la même époque que le texte d'Olivier Bécaille, qu'on a lu tout à l'heure. Donc on est dans un moment où cette idée d'état intermédiaire entre la vie et la mort, cette question passionne, inquiète et nourrit tout un imaginaire. La mort a été longtemps pensée comme quelque chose finalement de l'ordre du basculement, qui correspondait au dernier soupir. Et au XIXe siècle s'est imposée l'idée d'une mort processus, d'une mort qui prenait du temps, qui se déployait dans tout l'espace du corps, et donc on mettait du temps à mourir. Et de ce fait, les guillotinés créent une situation totalement inédite, puisqu'ils rentrent en quelque sorte tout vivant dans la mort. Et comment peut-on imaginer que ce corps si complètement vivant, une fraction de seconde auparavant, puisse être totalement mort une fois le couperet passé. Donc il y a effectivement tout un imaginaire qui se développe autour de cette survie des têtes de décapités qui peut durer de quelques secondes à quelques minutes selon les auteurs.
On est sur la question ouverte, si vous voulez bien, de Carole.
Oui.
Dès avant ces moments-là, on parle beaucoup de la mort, par exemple, dans l'œuvre de Balzac. Le colonel Chabert, c'est un combattant qui échappe à la mort, mais lui, parce qu'il est recouvert de cadavres, il réussit à échapper. Mais ce débat est durable. Comment reconnaît-on la mort? Écoutez donc cet extrait de la Tribune de Paris. Nous en donnons souvent les hommes, les idées et les événements à l'ordre du jour. C'est Paul Guimard qui conduit le débat avec deux intervenants ici. On est le 24 juin 1947. D'un côté, Bernard Lafay, un médecin élu de la Seine qui a été député, sénateur, ministre à plusieurs reprises, notamment ministre de la Santé ultérieurement, et le grand avocat du barreau, illustrissime à l'époque, Vincent de Moreau Giafferi. Écoutons-les.
Et est-ce que vous pouvez affirmer, vous docteur, une ou deux heures après, cet homme est mort?
C'est la question de la mort. C'est la question de principe, n'est-ce pas? Il faut évidemment que l'individu soit mort.
Et quelle preuve? Avez-vous des preuves scientifiques de la mort?
Écoutez, des preuves scientifiques de la mort, il n'y en a pas d'autres que la putréfaction. Cependant, en pratique, on fait les injections de fluorescéine et on peut donner un coup de bistouri. Si l'individu ne saigne pas, vous pouvez tout de même, scientifiquement, jusqu'à un certain point, affirmer qu'il est mort.
Jusqu'à un certain point.
Mais maintenant, Giafferi, je crois que vous voulez dire quelque chose.
Il y a des cas exceptionnels, n'est-ce pas, que l'on a signalés. Sont-ils vrais? Je n'en sais rien. Mais je crois que la doctrine actuelle en médecine légale, c'est que le cadavre, aussitôt après la mort, mettez 5 minutes, il n'y a plus de sang, il ne saigne plus.
Maître de Moreau-Giafferi.
Vous me mettez dans un cruel embarras. Vous me posez une question d'ordre médical. Je ne veux pas pratiquer l'exercice illégal de la médecine. Cependant, le hasard fait peut-être que je suis un des rares hommes qui puissent, à cet égard, apporter une affirmation. J'ai vu des têtes de guillotinés saigner encore quelques instants après avoir roulé dans le panier de son. Je sais bien que l'opinion unanime de la médecine est contraire. J'apporte la contribution de mon témoignage.
Ce sont les vaisseaux qui se vidaient.
Docteur l'a fait.
Mais ça n'est pas une hémorragie.
Mais que ce soit cela ou autre chose.
Ils étaient sanglants.
Ça permet de révoquer en doute cette règle que l'être humain ou l'animal ne saigne plus tout de suite après la mort.
Docteur Lafay.
L'objection à la kératoplastie et à la modification du décret du 31 décembre 41, c'était la crainte de la mort apparente. Or, cette crainte n'est plus valable aujourd'hui, car l'on peut bien dire que le médecin moderne peut poser à l'examen du corps, en raison de l'évolution rapide des signes cadavériques, un diagnostic de certitude. Et puis d'autre part, il faut bien le dire, nous avons maintenant des méthodes appropriées, reconnues amplement suffisantes pour déterminer la certitude de la mort. C'est l'injection de la fluorescine. Et il suffit d'injecter dans les masses musculaires, une demi-heure après la mort, une solution de 20 centicules de fluorescine. Si les téguments ne sont pas colorés, on peut affirmer avec certitude que le décès existe.
Dites-moi, cher ami, vous me faites peur? Le meilleur moyen d'affirmer qu'un homme est mort est de le tuer.
Curieux débat, non, Anne-Carole? Je rappelle que la kératoplastie intervient dans le débat parce que il est parti de la question de savoir si on peut enlever une cornée pour la greffer avant d'être sûr que celui à qui on la prend est vraiment mort.
Alors, on est encore dans cet âge où le signe de la mort, c'est la circulation. Hein. Vous voyez que les deux signes qui sont évoqués, que ce soit la phlébotomie, hein, inciser une veine et voir si du sang jaillit, ou injecter un colorant, la fluorescéine, c'est pour vérifier s'il y a encore une circulation, même minime, à l'intérieur du corps. Et la question des greffes va faire évoluer les choses, justement. Bon, là, on est encore dans des greffes de cornée, mais dans les années 50, on va passer aux greffes du rein, puis dans les années 60, aux greffes cardiaques. Donc, il faut prélever des organes, et pour prélever des organes sur les corps, il faut être sûr que ceux-ci soient morts. Mais il faut aussi les prélever très vite. On se rend compte de plus en plus tôt que si l'on attend trop, ces organes ne sont plus utilisables. Donc il faut se doter d'un nouveau signe, et ce nouveau signe, ce sera la mort de l'activité cérébrale, qui s'impose à partir du début des années 60. Il y a une circulaire début 1962 qui dit que voilà, sera considéré comme mort et donc susceptible de prélèvement, ce dont l'électroencéphalographe sera révélé plat. Une circulaire qui est assez vague d'ailleurs, et dont les contemporains ont souligné le caractère très opportuniste, puisque quelques jours après avait lieu en France la première tentative de greffe cardiaque par le professeur Cabrol.
Donc l'extrême difficulté de définir, et on est passé du souffle, du poumon au cœur, puis du cœur au cerveau, le bref moment où on est sûr qu'on est mort et qu'en même temps, vos organes pourront être utiles.
Alors on tourne autour du trépied vital de Bichat, hein,
c'est-à-dire
cœur, poumon et cerveau, qui étaient les trois organes sur lesquels Bichat s'interrogeait déjà au début du 19e siècle, quant à leurs interactions et à leurs connexions, la défection de l'un entraînant la mort par toute une série de mécanismes sur les autres. Nouvelle définition de la mort par le cerveau, il faut noter que ça avait été déjà le cas avec l'auscultation, s'éloigne d'une perception immédiate et sensible de la mort par les profanes. Tout le monde peut voir le dernier souffle. Utiliser un stéthoscope, c'est déjà plus compliqué. Alors lire un électroencéphalographe, c'est très complexe. Et quand les familles sont confrontées à des corps qui sont chauds, qui sont maintenus en état de respiration par des respirateurs artificiels, mais à qui on dit que leur proche est mort parce que l'activité cérébrale est nulle, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les perceptions sensibles et qui est difficile à admettre.
Il y a une dernière question qui peut apparaître marginale, mais qui ne l'est pas vraiment quand on évoque, comme nous le faisons ce matin avec Carole, les médecins devant la mort dans la longue durée. C'est le rôle qu'ils ont pu jouer comme hygiénistes dans l'apparition des cimetières.
Effectivement, ce sont les médecins qui sont à l'origine de la loi qui va réglementer les cimetières pour toute l'époque contemporaine. Ils sont à l'origine du décret de Prairial en 12, donc un décret en 1804, qui crée le cimetière moderne selon des règles essentiellement hygiénistes.
On s'est aperçu par exemple que laisser les morts dans les églises, ce n'était pas très très bien. Les morts de Notre-Dame ont joué un rôle.
Les morts dans les églises, dans le sous-sol des églises, effectivement, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime, ou les morts qui s'entassaient dans les cimetières paroissiaux, à proximité des églises, tout cela est apparu progressivement comme un danger sanitaire, à cause des émanations, des miasmes, qui empoisonnaient l'atmosphère et qui pouvaient occasionner des maladies chez les vivants. Donc les médecins s'emparent de cette question, ils sont tout à fait dans leur rôle.
Dès la première moitié du 19e siècle.
Dès la première moitié du 19e siècle, et donc inspirent cette législation de Prairial, qui fait du cimetière une sorte de dispositif, de machine à consumer les corps. Puisque le décret prévoit que les corps seront enterrés, laissés en place dans des fosses individuelles, pendant 5 ans avant que ne soit effectuée une reprise de fosse.
C'est bref.
Pour mettre un autre corps. Mais on pensait que 5 ans suffisaient à la fois à la destruction physique du corps et au deuil des vivants. Comme le décret prévoyait que les familles pouvaient éventuellement laisser des marques, des signes distinctifs sur la tombe, et donc rendre ainsi hommage à leur mort, bien au bout de 5 ans, on pensait que de toute façon le deuil serait terminé et que ça n'aurait plus lieu d'être.
Et on va voir progressivement le culte des morts, en somme, l'emporter sur la peur des miasmes qui peuvent émaner des cimetières. À l'époque où Haussmann décide, ou veut décider à un moment donné, de remplacer les 3 grands cimetières parisiens, c'est topique, c'est le Père Lachaise, Montparnasse et Montmartre, par un grand cimetière à Méry-sur-Oise, où on enverrait tous les morts pour aller les célébrer, tout en n'en étant pas empoisonnés.
C'est effectivement un projet qui va avorter, parce qu'à cette époque-là, le culte des morts est profondément enraciné. Mais ce qui est intéressant, c'est que les médecins ne l'ont absolument pas vu venir. Donc quand on parle du pouvoir médical, hein, ce pouvoir médical qui s'est exprimé par la conception du cimetière contemporain, conception très utilitariste, hein, très hygiéniste, eh bien on en voit les limites. Les gens se sont appropriés les cimetières, et on refusait cette rotation des tombes. Ce qui s'est développé très rapidement au Père Lachaise et puis ensuite dans d'autres cimetières urbains et qui a été consacré d'ailleurs par une ordonnance en 1843, c'est le principe des concessions temporaires ou perpétuelles, c'est-à-dire l'appropriation d'une partie du cimetière par des familles qui ont installé des caveaux familiaux et qui sont allés complètement à l'encontre du projet original porté par les médecins, qui était que le cimetière détruise les corps. Les familles, au contraire, ont fait des cimetières des lieux de conservation des corps les plus complets possibles, hein, puisque c'est à peu près à la même époque qu'on voit se développer les pratiques de l'embaumement, elles aussi portées par les médecins.
Mais aussi contradictoirement, les pratiques de la crémation.
Alors les pratiques de la crémation, c'est la réponse des médecins, justement à cette nouvelle saturation des cimetières qui menace, puisque la machine à consumer les corps ne fonctionne plus, elle s'enraye, hein, du fait du gel de la plus grande partie de la surface du cimetière par ses concessions. Que faire? On manque de place, on est à nouveau saturé de ces exhalaisons, on est menacé également par les germes, les microbes qu'a découvert Pasteur, qui s'infiltrent non plus dans l'air mais dans le sol et qui empoisonnent l'eau cette fois-ci. Et donc une des solutions que promeuvent les médecins, c'est la crémation, qui est une façon, on va dire, rapide, économique et hygiénique de disposer des corps.
Merci beaucoup Anne-Carole, merci beaucoup. Votre livre majeur, on l'a compris, s'appelle « Les médecins et la mort », exactement le sujet que nous avons traité aujourd'hui. Il est paru chez Aubier en 2004, un très beau livre qui devrait bien être repris en poche. Message pour les éditeurs. Vous vous êtes penché, si je puis dire, sur la guillotine. Physiologie de la veuve, c'est le nom qu'on a donné dans le peuple à la guillotine. Une histoire médicale de la guillotine, paru chez Champvallon en 2012, et chez le même excellent éditeur, Vaillant éditeur, vous avez publié un livre consacré à l'embaumement, une passion romantique. Vous avez enfin tout récemment donné un livre qui est préfacé par Georges Vigarello et qui s'appelle « Au pied de l'échafaud », paru chez Belin en 2017. Dites-nous un mot de ce livre, de son intention et du ressort qui vous a poussé dans cette curiosité vers ce sujet qui peut apparaître un peu morbide.
Disons que j'ai voulu approcher le vécu, l'expérience de la guillotine à partir des différents protagonistes de l'exécution et au premier chef à partir de ce que ressent le condamné. Et pour ça, je me suis appuyée sur des archives administratives qui racontent les derniers instants de ces guillotinés. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de savoir comment finalement une telle chose, l'exécution qui dure des heures parfois, a pu fonctionner, a été possible par la collaboration, si je puis dire, de tous les acteurs. Pourquoi ça n'a pas tourné plus souvent à l'affrontement, à la panique, à la débâcle? Comment ce rituel a pu fonctionner? Par la collaboration et par un certain nombre de procédés aussi techniques mis en œuvre par les exécuteurs, par l'aumônier, par la justice elle-même et par le condamné.
Alors je rappelle que vous pourrez trouver une bibliographie encore plus complète sur notre site et les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, changement de décor, ce sera plus aéré. Nous parlerons de la bicyclette. Non. À bicyclette. Ce sera dans le cadre du week-end sport de France Culture les 16 et 17 juin prochains. Et puis je signale que Emmanuel Laurentin, dans la Fabrique de l'Histoire, la semaine prochaine, posera la question de ce qui arrive quand l'histoire fait scandale. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et aussi Jeanne Guérou, réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son, ils étaient deux aujourd'hui, Clément Berman et Morgane Danan, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Inès Barja et Annie Lozana. Et dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.